Tout au long de la saison 4, nous avons abordé les enjeux d'une croissance rapide d'équipe. Mettre en place des process et les maintenir, faire évoluer à des postes de management et bien d'autres. Pour cette nouvelle saison, nous donnons la parole aux entrepreneurs et aux entrepreneuses qui l'ont vécu de l'intérieur. Comment ils l'ont mis en place, ce qu'ils recommandent et leurs best practices. Pour inaugurer cette saison, je suis avec Amandine, qui est la Head of People d'Osman et qui précédemment était RH chez Blissim, chez Préto et aussi chez Serena en VC. Amandine, bienvenue dans le podcast.
Bonjour Mathieu, merci beaucoup. Effectivement, j'ai rejoint Osman il y a un petit peu plus d'un an en tant que Head of People pour structurer l'entreprise après une levée qui nous est passée de 50 salariés à un de mes objectifs était de faire grossir l'entreprise jusqu'à 100. Stade auquel nous sommes aujourd'hui.
Ok, bravo, déjà, du coup, plus de doublé pour le coup.
Oui.
Ok, trop bien. Bah, c'est super de t'avoir dans le podcast parce que là, pour le coup, t'es la première personne que j'ai dans le podcast qui a abordé tous les sujets qu'on a eu. On a eu des entrepreneurs, on a eu des investisseurs, on a eu des boîtes qui ont effectivement doublé, voire même plus de doublé comme toi. Donc là, on a vraiment une perspective complète sur le sujet de l'humain en start-up finalement.
Je suis ravie d'échanger avec toi, vu que tu es aussi passionné que moi par les sujets people, c'est merveilleux.
Ouais, et on a été mis en relation du coup par Anas, qu'on salue,
Anas,
qui est passé dans le
écoute.
Podcast. Sûrement, qui est passé juste avant et que tu as connu chez Préto, je crois.
Absolument. Enfin,
chez Préto. Écoute, en tant que du coup Head of People, tu as accompagné des boîtes à grandir. C'est intéressant parce que tu l'as fait plusieurs fois. Et qu'est-ce qui finalement t'a donné envie de retenter l'expérience d'une croissance d'équipe? Qu'est-ce qui t'a animé sur ce sujet?
Alors moi, c'est vrai que dans ma personnalité, j'adore mettre les mains dans le cambouis et arriver là où il n'y a pas forcément beaucoup de structure et en mettre. Je trouve que c'est hyper enrichissant et valorisant parce qu'on a un impact quasiment au premier jour ou pas loin. Du coup, c'est pour ça que j'ai réitéré l'expérience. Et au-delà de ça, j'ai besoin, pour bien faire mon métier, de vraiment connaître les collaborateurs, les gens avec qui je travaille. Donc je ne me voyais pas de m'épanouir dans une structure plus importante. Donc j'avais besoin que ce soit une structure à taille humaine.
Ok, très clair, c'est intéressant. Dans les deux, tu l'as fait deux fois du coup, dans les deux fois où ça s'est fait, c'était quasiment la même chose, très différent, c'est comment ça s'est passé?
Alors c'était la même chose sur certains paramètres, puisqu'effectivement, comme il n'y a pas de, il n'y a pas encore structuration, puisqu'il n'y a personne derrière qui gère ou qui synchronise en tout cas les départements pour que ça fonctionne bien, c'est un joyeux bazar, donc ça je dirais que c'est le dénominateur commun. Et après forcément, chaque entreprise est différente, un ADM différent, des fondateurs différents, donc pour ça, il y a des approches différentes, mais il suffit juste de s'adapter au contexte.
Des approches de ton côté, tu veux dire?
Non, des approches, je pense, c'est plus chaque fondateur est différent, donc va vouloir des choses différentes pour son entreprise ou une vision différente pour son entreprise. Et du coup, c'est plus moi, je me suis plus vu à m'adapter à cette vision-là.
Voilà. Et du coup, c'est intéressant. Tu pars du ou de la dirigeante. C'est sa vision entreprise ou sa vision humain dans l'entreprise ou les deux?
Les deux, parce que c'est lié quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui va faire qu'on va peut-être prioriser sur certains sujets pour commencer ou inversement d'autres. Enfin, j'ai pas du tout commencé par la même chose en fonction des entreprises.
Okay.
Donc, et puis, ils n'étaient pas non plus tous au même stade de maturité. Préto, quand je suis arrivée à l'époque, c'était 30 et quelques collaborateurs. C'était assez semblable en termes de contexte à Blissim, qui était à 34 personnes. Que là, plus récemment, Osman, c'était déjà 50, mais il y avait un contexte précis. J'avais pas pu rejoindre l'entreprise plus tôt. Je savais que j'arrivais un peu tard dans la structuration, mais c'était pour des raisons personnelles, j'avais pas pu me libérer avant. Et du coup, les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes. Il y avait plus d'urgence, je dirais.
Et c'est intéressant. Souvent, on parle de la question qui est presque la question à un milliard. Quand est-ce qu'il faut justement recruter un ou une head of people?
Beaucoup plus tôt qu'on ne le fait.
Ok, c'est ce que j'ai
en
déjà
réalité,
entendu.
Ouais, en réalité, on arrive toujours trop tard. Enfin, pas trop tard, mais disons que la difficulté, c'est qu'on a à la fois un retard à rattraper et de l'autre côté, il y a l'opérationnel qui est là et sur lequel il faut avoir une mainmise assez rapide et du coup, c'est hyper dur. La prise de poste est souvent dense.
Okay.
Si je fais le parallèle entre 30, je trouve qu'aux alentours de 30, c'est bien. Un chouïa avant, c'est idéal. Je trouve que les boîtes qui recrutent des head of people, des RRH, peu importe, quelqu'un en people à 25, c'est idéal et ça met le temps de préparer la croissance sereinement et de ne pas faire les choses dans le désordre ou un peu n'importe comment, comme parfois on peut le faire parce qu'on n'a pas la ressource en fait.
La ressource en termes de temps, tu veux dire?
Oui, et d'être humain.
Parce que justement, d'autres entrepreneurs sont passés avant toi et me disaient justement, je vois pas bien ce que va faire une head of people dans l'équipe. Peut-être que tu l'as déjà eu cette
mais
question.
Complètement, oui, okay. Oui, complètement. Et ben parce que je pense que moi, j'ai toujours récupéré mes missions, ou en tout cas un bout de mes missions des fondateurs. Donc du coup, okay. Ils se sentent, je pense, en partie dépossédés. Okay. C'est une façon, enfin, quand on embauche des membres à ce niveau-là, c'est quand même un niveau important. Donc ça veut dire qu'on commence à déléguer et que c'est pas une étape facile à faire. Souvent, c'est des membres issus du COMEX ou à un certain niveau de décision qui sont assez autonomes et en tout cas dans l'esprit que je le vois pour que ça ait un impact vraiment concret. Du coup, c'est vrai que c'est pas une étape facile à faire et souvent, ils se rendent pas compte de tout l'envers du décor qu'ils ne font pas. Parce que c'est pas leur métier. Du coup, ils se disent, bah ok, moi je gère, ça va, ça roule, je fais un recrutement, comme ci, comme ça. Ils ont l'impression que ça fonctionne parce qu'effectivement, ce qui fonctionne à 10 ne fonctionne pas à 20, ni à 30, ni à 40. Ouais. Donc l'idée, c'est plus d'anticiper les problématiques qui vont arriver après, si on fait trop rapidement, mal ou qu'une partie.
Et les points d'inflexion pour toi, c'est tous les 10 ou il y a des gros points d'inflexion ?
Je pense que ça dépend vraiment de l'évolution de l'entreprise et puis je pense. Peut-être de prioriser, de se dire ok, ma strat va être celle-là sur l'année à venir, du coup je vais avoir des enjeux humains, structurels ou que sais-je, et pour moi c'est ça, il faut vraiment faire ce pas de côté de vision et de se dire ok, sur mon année c'est ça qui va être prioritaire et là je vais avoir besoin de structuration, et structuration il y a quand même certains pôles qui sont essentiels à un bon fonctionnement.
Ouais, c'est clair. Et là, c'est intéressant parce que tu parles du sujet avec un côté vision et un peu stratégie. Souvent on a tendance, je trouve, à finalement trouver que les ressources humaines c'est en réaction à la stratégie. Comment tu disais, mon premier sujet c'est de comprendre ce qui se passe, les fondateurs, la vision. Comment tu modules le...
Alors moi je répartis vraiment ma prise de poste en deux temps. Il y a la partie opérationnelle parce qu'il faut vraiment se mettre à 100% dans les sujets et comprendre comment tout fonctionne à l'heure actuelle pour savoir où reprendre ce qui doit l'être. Et sur les postes où j'avais plus de responsabilités, ce qui n'a pas toujours été le cas, ça a été le cas chez Blissim, mais ça n'a pas été tout à fait le cas chez Breto, c'était plus des organisations différentes, des modes de fonctionnement différents. Du coup, j'avais pas forcément cette vision strat, parce qu'elle ne faisait pas partie de mon scope dans l'organisation telle qu'elle était, mais j'avais quand même moins, parce que ça fait partie de ma vision intégrante de mon métier, de me dire, ok, là on est 30, demain on va aller à 70, il va falloir que je fasse ça, ça, ça et ça. Donc du coup, il y a quand même de l'anticipation, encore une fois, à voir. C'est plus se prémunir et aussi ne pas apporter une frustration inutile aux salariés. Parce que oui, on peut se dire, oh, comme ça, tout roule, etc. Mais derrière, on n'a pas eu le temps de sonder, on n'a pas été en profondeur dans les attentes, les évolutions, enfin, tout un tas de sujets, en fait.
Ouais, ok. Et puis tout ça a un impact finalement sur toute l'entreprise au fur et à mesure, c'est un effet domino d'une certaine manière. Et de tous les challenges que j'imagine tu as dû en voir plein, c'est normal, de la croissance rapide d'une équipe, ce serait quoi selon toi le gros sujet ou le sujet qui revient
Je dirais ne pas perdre son ADN et ses valeurs. Parce que quand on recrute en masse, forcément on multiplie le nombre de profils. Si par exemple on n'a pas une structuration bien carrée du recrutement, on recrutera forcément, il y aura sûrement pas des erreurs de recrutement, mais des profils qu'on a peut-être mal arbitrés pour tout un tas de raisons. Et pour moi, l'étape 1, qu'on fait rarement en étape 1 d'ailleurs, c'est un travail de fond sur les valeurs. Soit on les définit si on ne l'a jamais fait, ce qui est possible, soit on les re-challenge parce que des valeurs ça évolue au même titre qu'une entreprise évolue. Ouais. Et c'est pas grave, il n'y a pas de drame, il y a un vrai sujet autour des valeurs qui est très personnel, je pense. Et moi, je trouve que c'est sain que les choses évoluent et c'est sain de re-challenger les choses. Ça ne veut pas dire que c'est un problème, ça veut juste dire que l'entreprise grandit comme n'importe qui évolue. Et du coup, je pense que partant de ce constat-là, avec un ADN clair, des valeurs claires, on recrutera les bonnes personnes. Et moi, l'écart que j'ai rencontré, c'était plutôt ça. Je donne un exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui ne challenge pas les valeurs et dans son entreprise, pour lui, il pense que la curiosité est essentielle. In fine, il recrute des profils en disant la curiosité, c'est vraiment crucial dans tel et tel poste. La personne est venue chercher ça parce qu'elle est créative et qu'elle aime apporter une vision différente des choses. En réalité, elle se rend compte très vite que ce n'est pas du tout la réalité, pour des raisons X ou Y, peu importe. Du coup, elle va être frustrée très rapidement et peut-être que ce sera une erreur de recrutement, peut-être pas, mais en tout cas, ça va créer des frictions inutiles. Tout ça parce que le travail de fond n'a pas été fait. Et en général, travailler sur les valeurs, moi, j'avoue que je me suis retrouvée dans des contextes où soit elles n'avaient pas été définies, donc définies tard, mais je me suis encore jamais retrouvée dans le contexte où on les challenge. Et je trouve ça hyper intéressant à faire, De la même manière, j'imagine cet exercice comme un exercice collectif. Ouais. Embarquer l'ensemble de l'entreprise à réfléchir sur les valeurs à l'heure actuelle. Est-ce qu'elles sont toujours réalistes dans l'entreprise? Est-ce qu'elles transpirent? On les retrouve dans tous les process? Enfin voilà, vraiment un travail commun que je trouve en plus intéressant et plutôt créatif pour le coup.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, juste avant toi, c'était Pierre Gobil de 34 Elements, un entrepreneur qui est passé juste avant. Et justement, il accompagne des entrepreneurs dans la constitution de leur boîte vraiment dès le début. Et un des premiers sujets qu'on travaille avec Pierre, c'est justement la culture, les valeurs, etc. Chose que je ne comprenais pas quand je l'ai fait, puisque je me disais, on n'est pas nombreux, donc ça n'a pas tant d'importance. Mais si, et je comprends pourquoi. Et justement, cet exercice, est-ce que tu trouves qu'il est bien fait aujourd'hui? Est-ce que...
Alors j'avoue, je me suis refait que dans les structures où on n'a pas pris le temps de le faire.
Ouais,
okay. Soit, je pense que c'était essentiellement parce qu'on estimait que les valeurs étaient OK et qu'elles n'avaient pas changé quand elles avaient été définies. Donc...
Oui, ok.
Voilà. Clairement, c'est vraiment chez Haussmann où on commence à réfléchir à potentiellement les challenger parce qu'on a été défini comme la plupart du temps au moment où l'entreprise a été créée. Mmh. Du coup, l'idée, c'est de se dire, ok, est-ce qu'elles conviennent toujours? Est-ce qu'elles se retrouvent dans nos process, dans notre quotidien, dans notre manière de penser, dans notre vision? Enfin, voilà, de faire cet exercice, ça, je pense que je vais avoir l'opportunité de le faire sur cette année et je trouve ça. Okay. Mais c'est la première fois que je le fais, donc c'est pour ça que je peux te répondre qu'à moitié.
Ouais, et tu penses qu'il y a plein de cabinets, de choses qui existent et qui sortent sur l'accompagnement à la culture, est-ce que tu penses qu'il y a des... il faut se faire accompagner, que c'est quelque chose à internaliser, que c'est une compétence presque?
Moi, je trouve... Alors, j'ai réfléchi quand justement j'ai pensé à ça, notamment pour Haussmann, à me faire aider. Et en fait, en réalité, avec le recul, je pense pas en avoir besoin, dans le sens où effectivement, je pense que c'est quelque chose de très propre à l'entreprise. Et le fait de l'incarner sans un intervenant externe, ça change quand même le... Enfin, voilà, j'ai envie que ça nous colle absolument à la peau. Non pas qu'un intervenant externe ne pourrait pas jauger du bon fonctionnement, mais ça nous donnerait juste le cadre. Mais je pense que c'est à nous de trouver ce qui va sortir du cadre et ce qui va faire que cet exercice va servir à quelque chose.
Ouais, ok, c'est cohérent, effectivement. Je pense qu'il y a plein de manières de l'aborder, effectivement. Et donc toi, tu as déjà vu des entreprises grandir, doubler de taille, même plus. Avec la situation économique actuelle, est-ce que tu penses que les startups, les entreprises vont continuer à grandir différemment? Est-ce que ça va avoir un impact? Comment?
On voit déjà l'impact que ça a aujourd'hui. Clairement, il faut faire avec moins, mais mieux. Donc, okay. Pas simple comme exercice. En revanche, si on voit l'aspect positif des choses, ça nous oblige à changer peut-être des choses qui étaient en statu quo et qu'on déroulait comme ça, pas sans réfléchir, mais qu'on ne peut pas sans cesse tout changer non plus. Mais en tout cas, je trouve que ça nous donne un bon réflexe de challenger ce qui peut l'être, alors qu'avant, ce serait peut-être un peu plus assis sur nos lauriers.
Ouais.
Donc ça, je trouve ça chouette. La partie moins chouette, parce qu'il y en a, hein, il y a eu bon nombre d'entreprises qui ont dû écrémer, qui ont dû réduire leur voilure. C'est des étapes difficiles pour l'entreprise, pour tout le monde. Ça fragilise aussi, que ce soit à titre perso que sur le plan pro. Et du coup, je pense que c'est plus l'accompagnement, comment je prends ces décisions difficiles et je suis responsable du collectif. Donc là, pour un fondateur, je pense que c'est vraiment une étape importante pour lui. Et à côté de ça, comment moi, Head of People ou tout manager, accompagne au mieux un collaborateur que je suis, hélas, obligé de sortir pour des raisons économiques peut-être, peu importe le contexte, mais comment je l'accompagne au mieux que le onboarding soit aussi qualitatif que je veux que mon onboarding le soit.
Ouais.
Donc je pense que c'est tout le paramètre. Et c'est vrai que on a été nombreux à revoir nos enjeux de recrutement parce qu'on préfère pérenniser, vu le contexte, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer et puis c'est pas très positif pour le moment, enfin on va espérer que ça reprend, mais on est quand même obligé de prendre des décisions assez importantes et de se dire ok, c'est pas grave, ça c'est l'existant, mais comment on va pouvoir faire pour pérenniser l'existant sans des moyens démesurés? Ça dépend des paradigmes, mais nous, notre paradigme, c'est de faire avec les moyens qu'on a et faire le mieux possible. Donc là, c'est à chacun, nous, chaque head of, par exemple chez Haussmann, de dérouler notre strat en disant ok, il va falloir être créatif là pour le coup.
Okay.
La créativité est assez utile dans ce cas-là, qui permet d'aborder et de trouver des solutions qui ne sont pas non plus très coûteuses et qui puissent coller à la réalité des contraintes actuelles.
Et quand tu dis ça, c'est sur du recrutement principalement, tu veux dire?
Ça peut être sur du recrutement, ça peut être de la formation, ça peut être plein d'aspects où quand on doit faire attention à ses dépenses, oui, c'est pas toujours simple de satisfaire les envies, satisfaire les enjeux business. Enfin voilà, il faut tout faire corréler. On peut juste faire moins mais mieux en fait, mais c'est un exercice qui est compliqué.
Oui, c'est ça. J'avais un investisseur qui me disait que c'est assez facile finalement de scaler, faire grandir une entreprise en perdant de l'argent. Mm. Le faire tout en gagnant ou au moins ne pas en perdre, c'est beaucoup plus.
Exactement. Dès qu'on parle rentabilité, bah, c'est moins fun tout de suite. Hein.
Ouais.
Mais le fait est que c'est de voir la pérennité de l'entreprise et de dire que ce pour quoi on œuvre tous, bah, ce sera toujours là dans 10, 15, 20, 20 ans.
Oui, c'est ça. Donc, exactement. Et d'ailleurs, justement, on parlait de recrutement et tu parlais aussi de choses à mettre en place quand on scale une équipe. On parle souvent d'ailleurs du recrutement comme l'outil numéro un pour scaler une équipe, c'est évident. Quand tu arrives dans une équipe de 30, 50 personnes comme tu l'as fait, qu'est-ce que les entrepreneurs, les entrepreneuses oublient de mettre en place que tu arrives et qu'il faut améliorer absolument?
En général, ce qui se voit le plus, je dirais, il y a deux aspects. Sur le recrutement, c'est la longueur des process. En général, ils sont ultra longs, tout le monde a son mot à dire. Il n'y a pas un ownership très clair sur je te présente deux profils et puis tu me dis ce que tu en penses. Non, normalement, on doit avoir vraiment cette notion de se dire, c'est ce profil-là, je sais pourquoi, pour des raisons très factuelles, c'est le profil. Et ça permet aussi de décourter le process. Parce qu'on est dans des marchés quand même qui ne sont pas toujours simples, sur certains métiers qui sont durs à recruter. Donc, plus de temps tu mets à recruter, plus tu as de chances que les bons profils se perdent et partent chez le voisin. Mais de ce que j'ai toujours observé, c'est des process trop longs et avec trop de personnes qui interviennent.
Et toi, ta recommandation là-dessus, ce serait quoi?
C'est déjà d'évaluer un process différent en fonction de l'impact du poste. Il y a des métiers, si tu recrutes un stagiaire, tu n'as pas besoin d'avoir autant d'étapes qu'un membre du COMEX. Je schématise volontairement. Mais déjà, ça, c'est quelque chose qui est fait assez rarement, juste penser assez rarement par manque de temps. Et ensuite, je pense que même si c'est une étape difficile à faire, il faut que le fondateur sorte du process, mais en tout cas de l'opérationnel. Ça n'empêche pas qu'il y ait un échange informel pour qu'il garde toujours le lien avec les futurs collaborateurs qui vont rejoindre l'entreprise. En revanche, il faut impérativement qu'il sorte, parce qu'en général, il y a un agenda ministre, c'est hyper compliqué, et c'est comme ça qu'on prend deux semaines peut-être de délai sur un process, donc c'est assez dommage. Et ça donne aussi la responsabilité à ceux qui sont sur les étapes d'avant de se dire, ok, je valide cette personne, je ne vais pas la montrer au fondateur parce que je voudrais qu'il fasse le choix entre deux, mais c'est vraiment parce que c'est à celle que je crois et c'est là que je veux dans mon équipe.
Ok, une personne tu présentes du coup,
une personne, en général dans un pipe on va en finir en général à deux parce qu'on a des hésitations, parce que les profils sont différents, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le onboarding, souvent il n'y a rien, enfin en tout cas dans les structures que j'ai intégrées à 30 salariés, il n'y a pas grand chose. Ça arrive plus tard, ou alors ça va arriver chacun au sein de son équipe un onboarding différent et c'est très marginal, personne n'a la même expérience. Et ça, c'est quand même la conversion du recrutement sur les premiers jours. C'est essentiel de se sentir attendu, de se sentir embarqué.
Alors, ça résonne avec ce qu'il y a sur ton LinkedIn qui m'était resté, c'est utilisé sur ton profil LinkedIn. Mon travail, c'est de faire en sorte que j'ai plus tes mots exacts, excuse-moi, mais c'était. Tu disais que l'expérience finalement collaborateur et candidat soit aussi bonne que l'expérience client.
Oui.
Je trouvais ça hyper parlant. Comment tu fais un process de recrutement pour que ce soit dès le moment de candidat qualitatif?
Et c'est exactement en fait ce que j'avais mis, que j'essaie de retranscrire au maximum quotidien. On parle toujours de l'expérience client parce qu'on parle business, mais moi mes clients c'est les collaborateurs. Donc en fait je vois les choses de la même manière. Un collaborateur pas satisfait, c'est un collaborateur désengagé, qui a envie de partir, qui va commencer à faire des entretiens ailleurs, etc., etc. Même si évidemment c'est une des conséquences, mais fort heureusement je suis pas la seule. Et du coup j'ai perdu le fil.
tu disais pour bien que ça se passe bien, que la personne rejoigne.
Oui, et du coup, sur le process de recrutement, en général, les étapes que je mets en place et qui se sont avérées être hyper vertueuses, c'est de toujours recontacter le collaborateur après chaque étape. Ça prend du temps, mais c'est juste d'expliquer l'étape d'après. Voilà ce qui va se passer et voilà pourquoi on le fait, voilà qui tu vas rencontrer, est-ce que c'est en visio, pas visio, etc. Enfin voilà, que le candidat sache qu'est-ce qui va se passer et où il en est. Ne jamais le laisser sans réponse. On entend tellement, on voit tellement de gens râler sur LinkedIn à juste titre qu'ils ont zéro retour, ou alors on va leur demander un cas pratique sur lequel ils auront travaillé deux jours et ils n'ont jamais de retour non plus. Enfin, il y a tellement d'exemples que c'est. Et on se dit qu'il suffit juste de faire un retour, c'est l'image de l'entreprise qu'on véhicule à ce moment-là, donc c'est essentiel.
Bien sûr, et c'est essentiel, c'est rarement fait, tu as raison. Est-ce que tu vas jusqu'à expliquer aux personnes qui n'ont pas été prises pourquoi elles n'ont pas été prises, comment tu gères cette partie-là?
Alors on fait, mais uniquement sur la fin du process, parce que sincèrement on manque de temps en fait, surtout.
Ouais, ouais.
Enfin, c'est compliqué d'aller dans le détail quand c'est les premières étapes, mais effectivement on rappelle tout le monde et okay. Chaque personne sait pourquoi il n'a pas été pris, très factuellement, et c'est souvent le manager d'ailleurs qui fait ce retour.
Ouais, ok. C'est pas évident, et d'ailleurs ça doit peut-être un peu résonner avec l'expérience que tu as eue en VC, dans le sens où en VC finalement on doit dire la même chose. Alors l'enjeu émotionnellement peut être différent puisque c'est ta boîte, t'es entrepreneur, entrepreneuse, mais effectivement c'est un peu la même chose. Et quand tu arrives dans une startup en général, t'as déjà un petit peu répondu là-dessus, mais est-ce que les process ils sont déjà mis en place, mais surtout est-ce qu'ils sont standardisés?
C'est-à-dire,
ouais.
Ils sont absolument pas standardisés. Ce que je disais effectivement tout à l'heure, c'est s'ils existent en général, ils sont chaque équipe a fait son process, et du coup il n'y en a pas un identique.
Ouais.
Donc l'idée c'est plus d'uniformiser dans la première étape, mais c'est et ça c'est quand ils existent, donc on va dire c'est le meilleur des cas.
Oui, d'accord. Et justement là-dedans il n'y a pas un côté un petit peu alors c'est des petites équipes encore à ce stade-là quand tu arrives, de ce que j'ai compris, 30-50 personnes, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi politique en disant je suis attaché à mes process que moi, manager ou manager, j'ai mis en place?
Si, c'est pas toujours évident d'arriver et de dire bon, bah, on va tout changer. Parfois ça prend un peu de temps, mais ce que moi j'ai appris de mes expériences, c'est que c'est bien de procéder par étapes. Si on sent qu'il y a des choses trop verrouillées, je te donne un exemple. Quand je suis arrivée chez Haussmann, il y a pas mal de choses que je voulais faire évoluer dans l'onboarding. Il existait, mais c'est différent dans chaque équipe, grosso modo. Il y avait un petit tronc commun, mais il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de. Et du coup, l'expérience était radicale, que si tu étais, peu importe l'équipe où tu étais, je pense que tu ressentais, tu n'avais pas les mêmes premiers jours. Moi, je suis arrivée à un département qui n'existait pas, et j'ai dû construire mon onboarding. J'avais pas grand chose, quoi. Et du coup, l'idée c'était d'uniformiser assez rapidement ça pour que l'engagement se fasse naturellement. Et donc du coup, c'est vrai que s'il y a des choses qui peuvent être trop difficiles à faire passer, je dirais d'un point de vue politique, d'un point de vue, c'est les habitudes qu'on bouscule, c'est jamais facile à faire. Du coup, moi, sur certaines étapes, par exemple, l'onboarding, c'est uniquement les head-off qui intervenaient pour faire l'onboarding sur son équipe. Ce que je trouve valorisant pour d'autres personnes, et puis le head-off n'a pas toujours le temps, enfin voilà. Du coup j'ai compris qu'en étape 1 c'était trop, pas de problème. Du coup j'ai revu, j'ai ajusté un peu le tir entre guillemets, et de là je me suis dit c'est pas grave, on le fera plus tard, il n'y a rien de prioritaire. Du coup on est resté sur cet orga là, sauf que j'ai amené le lien qui manquait. Et en second temps, on a commencé à mettre en place certains modules uniquement avec des personnes dédiées et qui n'étaient pas des head-off, qui étaient juste spécifiques à leur métier et qui étaient très opérationnels et qui à la fois les valorisaient, donc tout le monde était gagnant et du coup la qualité de onboarding était un peu plus étoffée.
Ok, et ça, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses, ça, tout ça à mettre en place, à créer, plus tout l'opérationnel, j'imagine, que tu as dans ton poste. Ça t'a pris combien de temps en moyenne de construire tout ça?
C'est hyper dur de répondre. Et d'ailleurs, globalement, et je pense que toutes les personnes, si elles écoutent sur qui font ce métier-là, c'est hyper difficile de timer parce qu'on passe tellement d'un sujet à un autre et qu'il y a une variété, une quantité de sujets, c'est très très dur de. Mais je pense que ça a dû se faire dans le premier trimestre, voire peut-être semestre. Sur certains aspects, en tout cas sur la phase 2 que je te disais, intervention des personnes un peu hautes comme membres du COMEX, c'était peut-être semestre.
Et d'ailleurs d'une start-up à une autre, j'imagine qu'il y a forcément des différences, mais sur les process de recrutement, est-ce que c'était finalement assez similaire ou complètement opposé ce que tu as mis en place?
Alors c'était assez similaire sur les process classiques. Du screening, enfin les étapes, on va dire. Après je pense que ça défaut aussi des métiers. Tu peux avoir des cas pratiques, parfois c'est pas utile, ou alors le cas pratique est utile mais avant l'entretien, ou après, ou pendant, enfin voilà, il y a chaque, je pense que c'est plus ça que j'ai vu comme variation et qu'il a fallu adapter, que un process ça reste quand même dans les grandes lignes assez identique.
Oui, ok. Et d'ailleurs, quelle est ton opinion sur tout ce qui est test de personnalité pour recruter, t'en as déjà utilisé?
Alors, j'ai jamais pu en mettre en place, mais j'adorerais.
Okay.
Je pense que tu le sais, pas de surprise. En fait, j'adorerais pour plusieurs aspects. Je pense que ce qui est hyper intéressant, au-delà d'en savoir plus sur l'interlocuteur que tu as face à toi, parce que c'est toujours difficile, ça reste l'humain, c'est pas une science exacte, même avec toutes les compétences du monde, c'est d'avoir des clés supplémentaires, parce que moi, je trouve toujours intéressant, on a tendance à recruter des profils identiques aux nôtres. Je trouve que naturellement, il y a quand même, faut arrêter de se voiler la face, ouais. Et voilà, on peut faire les efforts qu'il faut, effectivement, de varier les profils, varier les personnalités, varier les backgrounds, enfin ce que tu veux. Le fait est, je pense que naturellement, si tu regardes, le manager va revenir quand même vers des profils équivalents. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est plus de trouver des profils complémentaires, justement. Ouais. Et c'est de là où je trouve que le test personnalité a du sens. C'est de se dire, ok, j'ai tel profil dans mon équipe, ce serait vraiment idéal que je trouve tel profil, mais ça, c'est pas quelque chose que tu peux voir avec un entretien, enfin, avec des compétences, oui. Avec un mindset, des soft skills, enfin. Donc voilà, donc je trouve que ce serait complémentaire. Et de la même manière, s'il y a de la mobilité interne dans ton entreprise, t'as envie de faire évoluer, tout le monde va pas se plaire avec tous les managers, donc ouais. Ça permettrait d'avoir plus de guidelines, au-delà du fait que je trouve ça génial de pouvoir en savoir plus sur soi, même ouais. Déjà, de base. Vraiment.
D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi, là, sur ce sujet-là, une côté expérience candidat à travailler, parce que souvent, il y a des tests sur lesquels c'est pas forcément agréable ou bien suivi, bien débriefé, etc. Mais c'est super intéressant parce que, pour le coup, je l'entends tout le temps en ce moment, ce point où les gens disent « ça m'intéresserait de le mettre en place, mais j'en ai pas utilisé ». Pourquoi toi, pour le coup, du coup...
Alors moi je pense qu'il y avait deux aspects, je pense l'aspect ressources, j'ai pas toujours eu les moyens de tout mettre en place, enfin t'as toujours des budgets limités, ouais. Et le temps je pense aussi, tout simplement, okay. Le temps de le faire et de le mettre en place, d'aller benchmarker, ouais. Tu vois, et souvent je trouve qu'il y en a quelques-uns, pour ne pas les citer, qui sont, en fait je voudrais pas alourdir mon process de recrutement, ouais, je voudrais que ce soit fluide et que ce soit simple et que ce soit... presque un moment agréable pour soi, en fait, qu'on fait plus pour soi, presque pour le process. Ou,
C'est intéressant ce point de vue, ouais. Effectivement, ouais, le côté que tu disais d'expérience client, candidat, collaborateur, là, c'est intéressant, ouais. Effectivement.
Parce que si c'est pour alourdir quelque chose que tu as parfaitement optimisé pour justement que ce soit réactif, efficace, que l'expérience soit qualitative et que derrière tu te rajoutes une brique qui certes va être intéressante mais qui ralourdit, je trouve ça dommage, du coup ça fait l'effet inverse.
Ouais, c'est clair, et en plus de ça, moi je trouve que, après c'est un point de vue et plus une idée qu'autre chose, mais je me dis est-ce qu'on pourrait pas même carrément construire des fonctionnalités pour le candidat dans l'outil, c'est-à-dire finalement un contrat de travail, il y a deux personnes qui signent, l'entreprise et le collaborateur, futur collaborateur. Donc est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire, à mettre en place aussi pour le candidat?
Et surtout, ce que je t'ai pas précisé tout à l'heure, mais je trouve que ce qui est intéressant au-delà du test de personnalité, c'est que du coup tu as accès à tellement d'informations complémentaires que tu peux aussi t'adapter à ton interlocuteur. Souvent, moi je me rends compte en management, en leadership, sur pas mal d'aspects, c'est souvent un problème de communication. Oui. Global en termes de problématiques, et du coup quand tu sais comment, enfin tu vas savoir un tel comment il fonctionne, ou tu auras au moins des guidelines, du coup tu vas savoir comment t'adapter pour que ça soit plus fluide, ça fonctionne bien.
Oui, complètement, et je pense que pour tu parlais de l'onboarding tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi des choses à imaginer, ouais. Sur cette partie là
complètement.
Et finalement tu vois, ce qui moi m'anime dans Unfair, c'est justement d'aider les gens à trouver leur voie. Alors pas forcément leur place, parce que la place ça peut changer, on peut avoir plusieurs places d'ailleurs dans une vie. Souvent c'est l'enjeu quand on choisit un métier, on pense que c'est définitif. C'est un sujet qui me parle beaucoup, et quand on a une équipe qui fait x2 voire x2,5 en quelques mois, quelques années, est-ce que tu arrives à prendre en compte cette partie-là? Comment tu... C'est plus philosophique sur ce sujet-là, mais...
Alors c'est très vaste, hein, mais je pense que c'est difficile quand tu fais de la croissance de... satisfaire toutes les, à la fois, enfin satisfaire l'individualité dans un contexte business, ouais. Enfin c'est, tu peux pas, hein, clairement il y a forcément des frustrations, enfin soyons, faut être lucide. En revanche, je pense que la première chose, c'est si chacun se sent à l'écoute ou se sent la possibilité de pouvoir émettre ses souhaits, ses envies, ses aspirations. Parce que moi je crois fondamentalement qu'on ne va plus faire qu'un métier, ça c'était avant, il y a je ne sais combien d'années. Maintenant, ce serait d'ailleurs bien que les cursus le prennent en compte, mais maintenant on a envie de changer de métier, on a envie de changer de vie, on voit toutes les reconversions qui existent. Enfin, on se dit que c'est lunaire de faire le même métier toute sa vie. Heureusement qu'on peut évoluer, il y a un milliard de façons d'évoluer. Du coup, je pense que le sujet est drôlement vaste pour le coup.
Ouais, complètement. Et effectivement, c'est ta raison, il y a la contrainte forcément entreprise et business tout simplement qui est là. Et là-dedans, il y a évidemment les personnes qu'on recrute, qui viennent d'arriver, mais il y a aussi les personnes qui étaient déjà là, qui ont parfois des envies d'évolution. Comment, je sais pas si tu as déjà eu ce sujet-là abordé, comment ça s'aborde?
Alors, je l'ai eu dans deux contextes. Contexte où j'avais mis la mobilité interne en place.
Okay.
Ça, c'était chez Bissim. C'était assez chouette parce qu'en fait, je me suis rendu compte que Déjà, on ne peut pas savoir les aspirations des uns des autres, on ne peut pas savoir s'ils sont arrivés un peu au bout de leur métier, si on fait le tour, si on met du changement. Enfin, à partir du moment où on ne leur soumet pas une opportunité, difficile ouais. de savoir. Donc je trouvais que c'était chouette de laisser la possibilité à qui veut postuler pour une ouverture de poste ou quelqu'un qui veut changer de métier. Et ça avait bien fonctionné. Je t'avoue que ça remonte un petit peu, donc j'ai plus en tête, mais je me souviens l'avoir fait 2-3 fois, j'ai plus en tête les postes de départ et d'arrivée. Mais en tous les cas, on l'avait fait et c'était souvent des personnes auxquelles on n'aurait absolument pas pensé si on n'avait pas juste émis. En gros, la personne pouvait candidater, mais confidentielle, pour être libre, si ça ne se faisait pas, de ne pas être gênée, de ne pas être...
Ok, voilà. C'est intéressant.
Et souvent, c'est aussi, on n'a pas vraiment le choix parce que c'est des personnes qui veulent s'en aller, ce n'est pas encore officiel, donc on est quand même obligé de rester sur quelque chose un peu tacite, le temps de régler les choses entre la personne qui doit partir et qui souhaite partir, ou inversement, et celle qui a peut-être envie de changer de poste ou qui a juste envie d'échanger avec un manager pour savoir si peut-être que ça pourrait lui plaire.
Oui, il y a ça aussi, cette partie-là, effectivement.
Exactement. En fait, il y a plein de pendants et qui fait que c'est pour ça qu'à l'époque, on avait vraiment fait cette... ça restait confidentiel, c'était vraiment que les parties prenantes qui étaient au courant et ça s'arrêtait là, pour que personne ne soit mal à l'aise, en fait, qu'on prenne le temps de prendre la température d'un côté ou de l'autre. Et après, je me suis retrouvée un peu plus récemment dans des cas de personnes qui ont fait le tour de leur métier, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, t'as juste envie de changer, t'as plus envie de faire le même métier que tu fais depuis X années, ou t'as juste envie d'évoluer, mais pas forcément d'un point de vue managérial, t'as envie d'évoluer une mission, t'as envie de changer, donc parfois c'est pas que l'entreprise peut pas t'apporter la solution, c'est juste qu'il faut savoir juste accompagner. Moi ça m'est arrivé, j'ai plus l'impression, enfin je prends plus une casquette, coach c'est un grand mot parce que je suis plutôt, enfin mon ego va bien, donc je suis pas du genre à dire je vais t'apprendre la vie, mais pour autant je trouve ça chouette d'accompagner, de donner juste des pistes de réflexion, savoir comment chercher, enfin d'échanger, parfois ça suffit à faire à semer la petite graine, de savoir ok t'es pas épanoui, comment je peux t'aider en fait. Ça veut pas dire que j'apporterai la solution, mais ça peut être déjà un élément de réflexion, parfois juste en débattant ça suffit un peu à sonder. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'aspects différents également.
Qu'est-ce que tu conseilles à des entrepreneurs, des entrepreneurs qui nous écoutent là-dessus, qu'est-ce que tu conseilles sur comment créer plus le climat qui permet de faire ça, peut-être?
Après, je pense que ça, c'est dans l'ADN de l'entreprise, je dirais, que de se sentir la liberté de partager ses souhaits, ses envies. Toutes les boîtes cultivent pas ça, d'avoir une certaine authenticité, une certaine vérité, de juste le dire, ça veut pas dire que ça va changer demain. Ça veut juste dire, je trouve que dans les entretiens d'évaluation, c'est le très bon moment pour mettre une section plus orientée et évolution, mais au global, pas forcément métier, managérial, je veux juste être manager parce que je veux ci, je veux ça. Enfin, vraiment de se dire, ok, de se poser, est-ce qu'il y a un métier qui m'intéresserait, pour quelle raison, est-ce que j'aurais envie d'aller faire un vie ma vie d'un métier de sales parce que j'ai jamais fait et que je suis dev par exemple, schématise, hein, je fais exprès. Ouais. Mais j'ai fait d'ailleurs chez Préto, on l'avait mis en place et ça marchait hyper bien, les vie ma vie, où tu pouvais aller passer une journée, une demi-journée avec un métier qui t'intéressait.
Okay.
Et c'était hyper intéressant parce que du coup tu découvres vraiment l'envers du décor et que souvent tu soupçonnes pas. Et à la fois, alors ça n'avait pas donné lieu à des vocations, mais ce qui était vertueux, c'est qu'en tout cas, ça a amélioré la compréhension des enjeux de l'autre, que parfois on ne comprend pas, particulièrement celles des techs. Je suis sûre que tout le monde sera d'accord avec moi.
Ouais, je pense que...
Et du coup, c'était assez vertueux, quoi qu'il arrive, dans la communication. Donc ça ne sert jamais à rien. Et puis sans doute, ça a peut-être donné lieu à aucune aspiration, aucune demande de changement de poste. En tous les cas, ça donne la possibilité de dire je peux en faire la demande, et si, enfin voilà, de laisser la liberté au collaborateur de s'exprimer s'il le veut.
C'est intéressant et j'aime bien le terme vie ma vie. Et quand tu fais vie ma vie, c'était la personne est à côté, observe.
Ouais, exactement. Donc ça dépend vraiment du planning. Soit t'es à côté, t'observes, c'est quelqu'un, je sais pas, par exemple un sales qui est au téléphone, t'écoutes son discours, tu vois tout ce qu'il a à faire, tu vois toutes les tâches, hop, après il part en rendez-vous si c'est le cas, etc. Moi j'en avais eu aussi sur la partie people où les gens en général n'évaluent pas la quantité d'opérationnel qu'il y a derrière nos missions. Du coup c'était pareil, c'était intéressant parce que du coup me dit je pensais pas du tout que t'avais tout ça à faire. Enfin voilà, il y a vraiment un côté vertueux au-delà de s'intéresser à un autre métier.
Oui, complètement. Ouais, c'est super intéressant, surtout que savoir ce qu'on a envie de faire quand on l'a jamais fait, c'est quand même assez difficile.
Ouais.
Et notamment, tu parlais de la partie management. Je sais pas comment toi tu le considères. Est-ce que c'est pour toi plutôt manager, une question de hard skills, de soft skills, les deux, quelle est ta vision là-dessus?
Tu veux dire pour aspirer à devenir manager ou...
Oui, pour finalement pour s'épanouir en tant que manager, manageuse.
Alors déjà, je trouve que ce serait bien que on arrête de se dire que être manager, c'est l'évolution naturelle, enfin c'est la next step naturelle, parce que ça convient pas à tout le monde. Alors certes, on peut apprendre à l'être, mais c'est pas une fin en soi. Il y en a qui sont pas faits et qui ne s'épanouissent pas du tout dans ces fonctions-là. Je pense juste que c'est encore une fois une bonne connaissance de soi et de se dire est-ce que je vais m'épanouir à transmettre, mais c'est aussi cadré, c'est aussi, enfin c'est pas très facile. Et il y a plein de manières d'évoluer différentes. En fait, il n'y a pas qu'une manière, il n'y a pas qu'avoir des responsabilités et d'avoir une équipe à manager qui fait qu'on évolue. On peut évoluer sur des projets, avoir un projet soit en lien avec son métier, soit absolument pas en lien et être très transverse et du coup acquérir des compétences beaucoup plus larges. Enfin, je pense que ça, c'est un petit peu traditionnel, je trouve, de mon point de vue, où oui, c'est chouette de manager pour ceux pour qui ça convient, mais c'est pas le cas en fait.
Oui, complètement.
Et systématiquement, en tout cas.
Et c'est marrant, c'est ce que disait Anas et aussi Pierre avant toi. Et quand on est l'entreprise, du coup, ou Head of People, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour inciter à ça? Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise déjà?
Inciter à manager, tu veux dire?
Non, pas forcément à manager, mais justement, oui, à dire il y a d'autres perspectives.
Je pense que un des rôles de l'entreprise, c'est de s'assurer que les collaborateurs évoluent de manière globale. Après, on ne peut pas répondre effectivement à toutes les aspirations, mais juste de créer le cadre qui va faire que chaque salarié va se dire moi, ce qui me plairait, c'est, je ne sais pas, moi, de mener un projet en lien avec telle équipe. Peut-être c'est possible, peut-être c'est pas possible, mais au moins de le formuler. Et après, je pense qu'au-delà de ça, c'est vrai que c'est très personnel. Enfin, c'est plus des aspirations et une réflexion qu'on doit avoir soi avant de... Parce que souvent, on a tendance à remettre tout sur son employeur, ou facilement en tout cas. Mais parfois, je pense que c'est d'abord une réflexion qu'il faut mener. Et je pense qu'au-delà du vie ma vie, tu vois, je pense que des échanges parfois d'une entreprise à une autre, une espèce de parrainage, je sais pas, mais d'aller voir une immersion d'une semaine sur un métier, ce serait hyper intéressant. Et ok, c'est peut-être un risque de perdre un salarié, mais garder un salarié qui ne va pas être épanoui, est-ce que c'est pas mieux de le laisser partir et en bon terme et plutôt que de se dire bon, là c'est très utopiste, mais
ouais, je vois ce que tu veux dire.
Mais tu me demandes de pousser, je pousse.
C'est bien, c'est le côté philo, j'aime bien finir
oui,
sur des
voilà.
choses comme ça. Et on a le droit d'avoir des utopies, d'ailleurs c'est comme ça parfois qu'elles se réalisent.
Hein, on est d'accord.
Et pour ouvrir un peu le sujet, on parle beaucoup depuis le Covid de Future of Work. Notamment avec des acteurs comme Aussol qui est passé aussi dans le podcast sur tout ce qui est batterie intelligente pour pouvoir un petit peu flexibiliser le bureau, ou aussi Totem avec leurs magasins qui sont au cœur du bureau et qui permettent de pas forcément avoir besoin de sortir pour avoir les éléments essentiels. Comment tu vois toi, en plus vous venez de changer de bureau je crois, évoluer le lieu, si c'est un lieu, qu'est le travail?
Alors, effectivement, le Covid nous a apporté quand même beaucoup. On a tendance à parler des mauvais côtés, mais le bon côté, il y a eu énormément d'entreprises qui se sont détendues, je cite, sur le sujet du télétravail, si ce n'était pas du tout une pratique naturelle et systématique, à part plutôt sur des populations tech, mais au global, c'était vraiment quelque chose qui était beaucoup moins déployé qu'aujourd'hui. Après, de là à passer full remote, etc., je trouve que c'est très très... moi, je suis pas du tout prête et je suis pas non plus convaincue. Je trouve que l'humain quand même n'existe pas à son raison et que c'est top d'avoir de la flexibilité. Pour moi, l'enjeu majeur, c'est garder une flexibilité et un cadre, et au sein de ce cadre, avoir une souplesse tant sur les bureaux. Donc chacun va avoir des besoins différents. Donc je trouve que les lieux, c'est bien qu'ils soient pensés pour des besoins différents. Il y a des gens qui ont besoin de travailler en calme, d'autres pas, d'autres s'isoler ponctuellement, d'autres pas, d'autres ont besoin de décompresser plus fréquemment que d'autres, peu importe. Du coup, je pense juste qu'il faut varier les possibilités au sein d'un lieu. C'est sûr qu'à terme, nous, par exemple, on est en bureau flexible, donc tu t'installes où tu veux, et on s'est rendu compte que c'est assez vertueux, parce que tu échanges avec des personnes que peut-être tu vois moins, ou avec qui tu travailles moins, ou que tu collabores moins au quotidien, et ça permet d'apprendre des choses que tu n'aurais pas forcément apprises si tu avais été en face de ta collègue, parce que ton bureau, il est à la team people, en face de je sais pas qui, enfin tu vois. Ouais. Donc nous, en tout cas, on est assez flexible, il y a un cadre, mais c'est flexible. Du télétravail, tu peux le poser en fonction de ton agenda, du moment par contre que les temps forts dans l'entreprise sont respectés, parce que je reste convaincue que tu peux pas faire vivre une culture sans être humain, sans interaction humaine. Ouais. Enfin, faut arrêter ce truc de se dire full remote ça va rouler, j'y crois pas une seule seconde, en tout cas pas en totalité. Je pense qu'il faut penser l'expérience. En tout cas pas. Je pense vraiment que l'interaction est la base.
J'ai hâte d'ailleurs de voir ce que ça va donner en termes de retour d'expérience, et quand on aura un petit peu de données et des chiffres là-dessus pour voir.
Complètement. Ce que ça donne. Parce que je pense quand même qu'il y a des petits retours en arrière, parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de boîtes qui sont engouffrées là-dedans pour des raisons diverses. Mais moi je suis assez, effectivement, je suis comme toi. J'aimerais bien voir ce que ça donne réellement au quotidien de jamais se voir. On a quand même besoin, à minima, de temps en temps, de moments à partager.
Oui, complètement. Et puis derrière un écran, c'est pas forcément, on fait pas les mêmes choses.
C'est pas la même chose. Et puis mine de rien, ça convient pas à tout le monde. Toujours la même chose, comme tous les cadres. Parfois, tu peux être profondément isolé. C'est hyper dur de couper quand t'es en télétravail. Enfin, toi, je sais pas, mais moi, j'ai beaucoup de mal à couper. En tout cas, je coupe beaucoup moins bien que quand je suis au bureau. Tu vas pas te faire une heure de pause tout seul, clairement. Je schématise, mais enfin voilà. Et du coup, il y a des moments où t'as l'impression de sortir presque d'une grotte ou d'une cave quand tu as fait 2 jours de télétravail. Et à l'inverse, on a d'autres qui s'épanouissent complètement. Donc je pense qu'il faut laisser la flexibilité au sein de ça, de se dire, ok, il y en a peut-être qui ont besoin de plus de télétravail que d'autres, mais par contre, il faut des moments de rassemblement pour engager l'entreprise.
Ouais. Oui, complètement, c'est sûr. Et d'ailleurs, toi, tu as conçu finalement en partie l'expérience bureau et du coup remote. Comment tu as réfléchi à ça? Comment tu as abordé le sujet en arrivant là-dessus?
Nous déjà, on a du remote, mais c'est pas non plus la totalité de notre organisation. C'est qu'on est sur 2 jours par semaine, et tu peux les poser comme tu veux. Okay. Donc ça dépend de ton agenda. La moitié de notre population, c'est commerciaux qui sont sur le terrain, donc ils adaptent en fonction de leur rendez-vous. Donc bien souvent, ils sont là des demi-journées en réalité. Et les autres, c'est les équipes centrales qui sont en fonction de leur rendez-vous, ils sont plus flexibles. Et du coup, en gros, les bureaux, il y a, on va dire, 3 parties. Il y a vraiment une partie salle de réunion, où là, t'es au calme. Donc, t'es sûr de ne pas être particulièrement dérangé et d'être focus, d'être au calme. T'as de grands espaces détente, parce que nous, on travaille tous en open space et c'est ce qui nous convient. En revanche, tu veux du calme, tu peux t'isoler dans certains espaces un peu plus calmes et plus informels, on va dire. Et à côté de ça, t'as l'espace détente, qui est un espace mixte, donc comme il porte son nom, vraiment l'espace où tu décompresses, on va dire. Et aussi l'endroit où on fait nos réunions, on se rassemble, en fait, au global. Okay. Et nous, ce qui était essentiel pour nous, c'était d'avoir un endroit calme, vraiment, parce que c'est dur dans Paris, quand même.
Ouais.
Et surtout de la verdure. Donc on a la chance d'avoir une terrasse, mais surtout le calme lié à la verdure est vraiment apaisant et hyper... Ça a fait la différence pour nous qui était dans le centre de Paris, où on n'avait pas d'espace extérieur, donc on a beaucoup apprécié en arrivant ce cadre-là.
Et ça, c'est où la localisation?
Saint-Lazare.
Saint-Lazare,
comme quoi, à Saint-Lazare, il peut y avoir des endroits calmes et verdoyants.
Et de la verdure, ouais, effectivement. Voilà. Et merci beaucoup, Amandine, pour ta présence dans le podcast. Et d'ailleurs, vous recrutez encore des postes en ce moment?
Alors, pas en ce moment, mais il faut rester connecté.
Il faut suivre, très bien. Alors,
on est en train de travailler sur notre strat, donc le reste arrive.
Ok, super intéressant. Bon, bah très bien. Merci beaucoup, Amandine. Merci, Anas, de nous avoir mis en contact. Et merci à vous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on évoquera un autre sujet avec un autre intervenant. Donc, pour ne pas rater ça, abonnez-vous au podcast. Et moi, je vous dis à bientôt dans le podcast d'Unfair.
Merci, au revoir.
Au revoir.